Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Josephine, I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 44 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de genre, de celui assigné à la naissance, en fonction de nos organes génitaux, et dans lequel on ne se reconnaît pas forcément. Parfois, c'est très tôt que l'on s'en rend compte. Enfant, la verbalisation est alors souvent plus évidente, moins contrainte par les injonctions que l'on reçoit tout au long de notre croissance. Parfois, c'est plus tard, adulte, plus ou moins âgé, et le chemin de l'acceptation est souvent plus long, plus difficile, tant on sait que l'on va transformer notre vie et celle de notre entourage. Clément a eu ce déclic après sa grossesse. Devenir parent chamboule, transforme, amène à remettre en question beaucoup de nos certitudes et fait bouger toutes les lignes de nos personnalités. S'il a rapidement compris qu'il ne se retrouvait pas dans cette case dans laquelle on l'avait mis, il a aussi pris la mesure de l'impact qu'aurait cette annonce dans son quotidien, pour sa femme et pour son fils particulièrement, au sein de son équipe de travail, auprès de sa famille et de ses amis. Avec Maud, il se livre à mon micro sur tous les sentiments par lesquels ils sont passés, et leur discours est touchant tant il est sincère. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la transparentalité, la transidentité, la transition de genre et les choix que Clément a faits, et la réalité de ce que cela implique. Merci Clément et Maud de votre confiance pour aborder ce sujet qui est parfois sensible. Merci d'avoir accepté de vous raconter dans cette série d'épisodes. Merci d'y avoir mis cette légèreté qui va permettre une écoute sûrement plus large. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maud, bonjour Clément.
Bonjour.
Je vous reprends pour ce deuxième épisode qui est directement consécutif au premier, dans lequel nous allons traiter donc de transparentalité et de ta transition Clément.
Oui.
Donc, je ne vais pas te faire te représenter parce que logiquement, vous avez écouté le premier épisode de Maud et Clément. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est donc le précédent, juste avant. Mais moi, j'ai une première question qui me vient. Alors, je ne vais même pas te dire spontanément, mais je pense que c'est la première question que je me suis posée quand j'ai découvert ta transition. Est-ce que tu étais déjà, ou est-ce que ça fait longtemps que tu réfléchis à cette transition? Et est-ce que pendant ta grossesse, tu réfléchissais déjà à cette transition?
Pendant la grossesse, c'était pas encore acté. Ça c'est pour un petit peu situer les choses. On va dire que les vrais commencements de réflexion sur le thème transidentité s'est posé bien plus d'un an après la naissance de Solal. Mm-hmm. C'est pour remettre dans le contexte. Donc la grossesse, voilà, il y avait pas encore ce sujet à ce moment-là. En fait, moi la grossesse, il y a un truc. Parce qu'on me pose souvent la question de savoir comment je l'ai vécu et en tant que comme trans, parce que de toute manière j'étais déjà pas quelqu'un, enfin je me sentais pas féminin déjà, même enfin depuis jamais, mais Depuis toujours. Je me suis jamais senti féminin. Enfin, ou de part de féminité, en tout cas. Et on me dit, ah, mais, enfin, je sais pas, il y a une espèce de truc où, comme quoi on devrait se sentir très, très féminin pendant la grossesse.
La puissance féminine.
C'est ça, voilà. Moi, la grossesse, c'était juste un acte super chouette pendant lequel j'ai porté mon enfant, mais en aucun cas, il y a eu de féminité dans cet acte-là. C'était voilà, un acte de famille, un acte d'amour, un super moment de 9 mois où on attendait notre enfant. Mais ouais, c'était important de dire qu'il n'y a pas forcément... Enfin, on n'est pas obligé de sentir de la féminité, on n'est pas obligé de...
Dans la grossesse, oui.
Femme ou quoi que ce soit, ouais, y a pas d'idée de genre, en fait, pour moi, dans la grossesse. C'est ça que je l'ai ressenti. Ouais.
Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent... En plus, on le dit, quoi, c'est le moment où la femme est censée se sentir la plus belle, la plus joyeuse, la plus épanouie. Je crois que finalement, c'est pas ce qui se vérifie quand même, pour la plupart, déjà pour
commencer. Oui, en plus, c'est vrai.
C'est ça, mais en fait, ça véhicule un mythe vraiment de la féminité autour de la grossesse.
Oui, et je pense qu'au début, je l'ai peut-être cherché en me disant, tiens, je suis censée le ressentir, et puis finalement, en fait, je crois que on a vécu les choses comme elles étaient et simplement, et en plus on a eu la chance d'avoir comme dit dans l'épisode précédent d'avoir une belle grossesse. Et ouais, non, en fait, même pour quelqu'un qui serait cisgenre femme, et elle a pas besoin de chercher sa féminité dans la grossesse, en fait c'est juste un magique et super ou pas super si on le vit pas bien, mais en tout cas il y a pas d'idée de genre pour moi dans cette
période-là. Complètement. Et tu vois, je pense que ça pourrait déculpabiliser pas mal de femmes cis qui portent des enfants mais qui n'apprécient pas la grossesse ou qui ne se sentent pas belles enceintes, de déféminiser en tout cas de ce côté beauté de la grossesse.
Il n'y a pas de pression à avoir, en fait, c'est ça. On se met beaucoup de pression sur ce rôle-là et non, en fait, faut juste le vivre comme on le ressent et comme on a envie de le vivre.
D'accord, ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment... et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez, parce que je sais que Maud, toi, t'as dû arriver forcément après le début de sa réflexion, nécessairement, ou peut-être que vous avez échangé, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Comment vous avez mené cette réflexion?
Moi, il y a eu, je pense, deux éléments déclencheurs à cette réflexion. Alors, il y a un élément déclencheur, c'est, je pense, quand même la naissance de Solal, le fait de devenir parent. À côté de ça, j'ai eu une cassure avec mes parents qui a fait que je me suis un peu permis de mener une réflexion sur qui je suis, qu'est-ce que je ressens au fond, et du coup mener une introspection sur moi-même et sur mon genre, mais depuis mon enfance. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, depuis tout petit, cette réflexion-là avait été latente, sans que j'exploite ou que je pose plus de questions que ça.
Ouais, sans que tu passes le cap, en fait.
Exactement.
Oui, parce que je me doute que c'est pas quelque chose qui est spontané, en fait. C'est a posteriori que tu te rends compte que finalement tu l'amènes depuis très longtemps, mais il y a des déclics.
Tout à fait, ouais.
Ouais. Et ces déclics-là, du coup, donc le fait de devenir parent, t'as lancé dans l'introspection, enfin, c'est clairement ce qu'on évoque tous, hein, ça transforme la parentalité.
Ouais, je pense que ça réveille, en dehors de ce sujet, ça réveille plein de choses et plein de questionnements. Et on revient aussi dans son enfance. Enfin, pour ma part, moi, je sais pas, ça m'a aussi dit, bah tiens, comment moi j'ai grandi, comment j'ai vécu les choses, et comment je veux que mon enfant vive les choses, même en dehors de cette réflexion de transidentité. Et donc, forcément, ça a réveillé des souvenirs et des choses, des ressentis d'enfance. Mm-hmm. Et je pense que du coup, pour moi, la réflexion commence là, avec l'arrivée d'accord. et la, enfin, surtout ce rôle de parent qui arrive dans ma vie.
Et est-ce que tu captes immédiatement que potentiellement tu vas pouvoir mettre en place une transition, ou est-ce que tu réfléchis simplement à ton identité à ce moment-là? Je suppose que c'est assez long comme réflexion.
C'est, pour moi en tout cas, ça a été hyper long parce qu'il faut d'abord se l'avouer.
Et je pense que oui, c'est ça.
C'est ça le plus long. Parce qu'en fait, maintenant que je te le dis et que la transition est bien entamée, oui, quand le peu de personnes trans que j'ai pu voir au départ, ça me parlait, mais je me disais pas, tiens, je vois cette personne trans et ça me parle. Maintenant, je peux te le dire. et ça me parlait, mais il y avait un truc, mais tu te le dis pas, tu te l'avoues pas, et c'est pour ça que ça peut mettre du temps, et que moi ma transition elle a démarré à 34 ans, parce que la réflexion, c'est tout un travail d'une vie quoi, qui te déconstruis
pour reconstruire en fait.
Exactement.
Et toi, Maud, quand est-ce que Clément t'en a parlé ? Est-ce que tu te souviens ? Je suppose que oui, tu te souviens.
Oui, parce que finalement, tout ça, c'est récent en soi. C'est quand en mai 2021.
Voilà.
En fait, oui, c'est tout frais. Au début, tu as commencé à me parler de non-binarité, je me souviens. De non-binarité, donc quelques mois encore avant, après la naissance de Solal, quelques mois peut-être après la naissance de Solal. Du fait que tu te sentais pas... être femme cisgenre, tu savais pas trop où te situer, Clem, mais sans parler de transidentité. Alors déjà moi, il a fallu que je me rencarde un petit peu sur tous les termes.
Ouais.
Donc c'était non binaire femme. Ensuite quelques semaines, mois après, c'était non binaire tout court, et quelques semaines après, donc en mai 2021, tu m'as montrer une illustration. Ouais, Clément m'a montré une illustration. Je sais plus trop ce que ça disait, mais en gros, il y avait une personne, assez née femme, visuellement, on se dit que c'est une femme, et il y avait un texte qui disait, en gros, on me voit comme une femme, mais moi, à l'intérieur, je suis un homme. Un truc comme ça, dans l'idée. Mm-hmm. Du coup, je lui ai dit, et c'est ce que tu ressens? Et il m'a dit, c'est ça, c'est moi en fait. C'est comme ce que je ressens. Et donc c'est moi à chaque fois qui a mis des mots dessus, parce que c'était compliqué pour Clément de l'exprimer, mais en gros je lui ai demandé. Et donc tu sens que tu es un homme en fait. Et il m'a dit oui, je suis un homme. Voilà. Donc c'était comme ça que ça s'est fait. Donc il y a eu cette période un peu où je ne me sens pas complètement femme. Ensuite c'était je pense que j'ai un genre neutre. Et finalement, je suis un homme, et je te dis que je suis un homme. Et donc ça, c'était en mai, l'année dernière.
Non, mais oui.
Oui, parce que pour définir, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les termes, la non-binarité, en fait, c'est de ne pas se sentir assigné à son genre, c'est ça ?
C'est...
au genre assigné, dans le genre assigné, c'est ça ?
Non-binaire, ça va plus être quelqu'un qui se définit ni comme homme, ni comme femme.
Ou
dans un spectre entre les deux.
Oui, parce que
ça dépend des gens. Et donc, moi, j'étais dans ma réflexion et dans le fait déjà de pas réussir à verbaliser les choses. Donc, il m'a fallu du temps avant de. En fait, je crois que j'avais besoin de passer par ces étapes.
Oui, de réflexion sur ton genre, c'est-à-dire est-ce que je suis.
Voilà, de faire les choses pas à pas pour arriver à ce que je suis vraiment.
Ouais,
surtout pour le verbaliser finalement.
C'était plus ça, je pense, que tu le savais à ce moment-là, mais que
j'arrivais pas à le sortir, et que je savais que une fois sorti, ça allait démarrer plein de choses quoi.
Peur aussi de passer de je suis ta femme à bonjour, je suis un homme, donc je suis ton époux, ton mari, peut-être que je sais pas, dans ta tête ça te rassurait peut-être de faire des étapes comme ça, penser que peut-être ton genre était neutre, ou que t'étais plus l'un que l'autre, mais de façon graduelle, on va dire.
C'est ça.
Alors que tu savais.
Non, puis je savais que c'était, une fois que je l'avais dit, il y avait un grand saut qui allait se faire, quoi, donc.
Ouais, ça avait un caractère irréversible.
Ouais, quelque part, et puis il fallait que je le dise, une fois que je l'avais dit à Maud, il fallait que je le dise, dans ma tête, c'est comme ça, il fallait que je le dise à tout le monde, parce qu'il fallait que je sois. Voilà, c'était le déclic pour que je puisse être moi.
Tu t'es libéré à ce moment-là.
Ouais, je me suis libéré, mais.
Parce qu'après, c'est allé assez.
Mais le fait de passer le pas, c'était pas si facile que ça.
Ah oui, c'est sûr. Et je suppose que dans une partie de ta réflexion, il y avait nécessairement la perception de ta famille proche, donc j'entends Maud et Solal.
Oui.
Et que ça a dû bloquer un peu quand même. Est-ce que. Enfin, comment t'as envisagé ça ?
J'y ai forcément pensé, beaucoup à Solal aussi, évidemment, parce que ça chamboule. J'avais forcément peur que ça puisse le chambouler lui sur le long terme, que notre équilibre à trois puisse être chamboulé aussi. Donc c'est aussi ça qui peut au départ m'avoir freiné dans le fait de me ôter, parce que derrière il y avait un enfant qui était déjà là, et donc Donc forcément, il y a encore plus de réflexion sur la façon de faire les choses.
Oui, clairement. Et toi, Maud, du coup, comment t'as réagi?
Bah, étonnamment et honnêtement, j'ai pas très très bien réagi parce que.
Je sais pas si c'est étonnant en soi, mais.
En fait, ça a été étonnant pour bouscule, moi, quoi. En tout cas. Ça a été étonnant pour moi de réagir de façon pas très positive sur le moment parce que on a des amis transgenres, etc. Enfin, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, il y a aucun problème avec ça. Avec l'identité, le genre ou l'orientation sexuelle de chacun. Et là, par contre, quand ça arrive dans ton propre foyer et que ça t'arrive directement avec ton conjoint, en fait, en fait, c'est pas pareil que quand c'est tes amis qui te font un coming out, voilà. Donc du coup, non, sur le moment, j'ai pas très bien accueilli la nouvelle parce que justement, je me suis dit que ça allait chambouler énormément de choses, que la personne avec qui je vivais allait changer.
Oui.
Physiquement et peut-être aussi mentalement. Enfin, je savais pas trop en fait comment ça allait se passer. J'avais peur pour Solal. J'avais peur que notre équilibre soit déséquilibré. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'on était ensemble depuis 13 ans.
Ouais, ça faisait 13 ans à ce moment-là.
On s'est mis ensemble en 2007. Donc, du coup, quand ça arrive en 2021, y a beaucoup de chemin qui s'est fait dans un couple au schéma qu'on a, un schéma lesbien en fait, deux femmes qui ont fait un enfant, etc. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues et sur le moment, non, ça a été un peu compliqué.
Oui, non, mais c'est nécessaire que, enfin, je me dis, on peut être très ouvert, avoir toutes les convictions du monde. Je pense que la première chose qui te traverse, c'est que les choses vont changer nécessairement, en fait. Donc, je pense que ta réaction, elle est juste humaine.
Oui, mais c'est vrai que moi-même, j'en ai été étonnée. Et je m'en voulais, en plus, de réagir comme ça, mais c'était plus fort que moi, en fait. Fallait que j'accueille la nouvelle et puis il me fallait un temps de réflexion de mon côté. Et c'est vrai que toi, ça, tu l'as mal vécu, ça.
Oui, au début, oui, mais après, maintenant, avec le recul, je me dis qu'effectivement, c'est normal. Moi, j'étais aussi dans mon chamboulement et forcément, au départ, je l'ai un peu mal vécu. Après, maintenant, ça changeait tellement, enfin, ça changeait pas tellement de choses, mais sur le moment, on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Il y a tellement de questionnements, en fait, que ça, forcément, on peut pas dire ouais, c'est génial, il y a pas de souci, et on passe à une autre conversation. Donc...
Oui. Et du coup, Maud, tu disais que tu avais eu besoin d'un temps de réflexion, mais d'un temps de réflexion pour quoi ? Pour juste encaisser, mais tu savais au fond de toi que de toute manière, les choses, elles iraient bien et c'était juste le temps d'admettre ? Ou tu as réfléchi à d'autres choses ?
Non, c'était vraiment le temps d'accueillir la nouvelle et le temps de...
Ouais, c'est ça.
Voilà, de l'ingérer, de la digérer. Je savais que j'aimais Clément. Je savais que on avait des bases très solides et je me voyais. En fait, j'ai pas pensé une seule seconde à partir, mais c'était vraiment me dire bon, il va y avoir des choses qui vont changer. On sait pas quoi, on sait pas quand, on sait pas comment. Et tout ça, à un moment, ton cerveau il vrille un peu quoi. Donc c'était plus en ça qu'il fallait que j'ai ce temps-là pour de recul entre guillemets. J'ai contacté une association de personnes transgenres et pour les proches aussi de personnes transgenres ou en questionnement. J'ai participé à une réunion pour les proches. J'ai été voir un thérapeute spécialisé dans les identités de genre ou pour les proches de personnes en questionnement ou transgenres. Du coup, j'avais besoin d'en parler à l'extérieur, de recueillir les témoignages extérieurs pour pouvoir justement ensuite l'accompagner au mieux, quoi. Être moi posée dans ma tête pour pouvoir ensuite être là pour Clément et pour Solal.
Oui. Non, c'est tout à fait compréhensible. Et je pense que ça, pour toi aussi, ça a dû être Solal pour le coup la principale préoccupation.
Ben oui, parce que en fait c'est bête, mais comme Clément l'a porté, je me suis dit mais comment on va donc déjà il faut lui expliquer que il avait 2 ans à l'époque.
Oui.
Il faut lui expliquer donc que parce que il avait deux mamans. Enfin, il avait déjà Mimou et maman au niveau des appellations. Il y avait Mimou et maman. C'est lui qui avait choisi comme ça, mais il y avait pour lui, il avait deux mamans et même nous pendant 2 ans, on lui a expliqué qu'il avait deux mamans. Donc du coup, il a fallu se dire bon, comment on va lui expliquer que qu'il y a eu il y a cette évolution qui s'est faite et que c'est plus, il y a pas deux mamans. Et puis en plus, Clément l'ayant porté, ben voilà, il était dans le ventre, il a été dans le ventre de son, enfin de son mimou, pas, enfin voilà. Donc il y avait plein de choses comme ça où je me suis dit bon, il va falloir que moi je me pose pour qu'ensuite on puisse se poser et lui expliquer tout ça sereinement, bah comme on l'a toujours fait et comme on lui a toujours expliqué les choses quoi. Je voulais pas être confuse dans ce qu'on allait lui expliquer ou être mal à l'aise dans le fait de le dire. Donc,
Oui, parce que tu me disais qu'il avait déjà, avant, il avait deux mamans. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que vous avez changé vos appellations pour Solal ou pas du tout?
En fait, quelques mois avant déjà, Solal a commencé à m'appeler Mimou. Et du coup, ça a permis tranquillement d'effacer le mot maman de son vocabulaire. Et pour moi,
de lui-même, quoi. Oui, c'est lui qui de lui-même a fait une distinction.
Du coup, on lui a expliqué les choses. Enfin, moi, je suis allé à ce moment-là, j'allais beaucoup me promener avec lui, donc j'ai profité de ces petits moments à deux pour pas mal discuter. Enfin, lui expliquer les choses, ce qui était en train de se passer, etc. Donc, déjà pour un peu introduire le sujet avec lui. Et tout ça. Et mais du coup, pour l'appellation, donc on lui a expliqué que ben Mimou c'est son papa, etc. Donc il continue à m'appeler toujours plutôt Mimou. Mm-hmm. Parfois, une fois de temps en temps, il me dit papa, mais c'est pas souvent.
Et on lui a pas demandé nous.
Non, j'ai pas forcément.
À ce qu'il t'appelle papa, en fait, c'est venu avec le temps et avec le fait que les gens ont assimilé ta transidentité. Et du coup, par exemple, l'assistante maternelle, elle a assimilé la nouvelle et maintenant elle lui dit, bah tiens, va voir ton papa Mimou. Avant c'était Mimou, maintenant c'est va voir ton papa Mimou, va voir ton papa tout court. Ouais. Et du coup, lui, il entend ça, même des gens à qui on parlerait dans des situations où ils te connaissent pas, ils disent, ah bah il y a ton papa et ta maman. Donc lui, il a assimilé qu'il avait son papa et sa maman et il t'appelle Mimou et des fois c'est papa.
C'est exactement ça.
Mais c'est parce que les autres, en fait, ajoutent le terme de papa.
Oui.
Mais toi, sinon, ça te dérange pas, au contraire.
Non, pas du tout. Moi, ce petit surnom me convient bien. C'est un petit truc que lui a décidé de. Il a décidé lui-même de me nommer comme ça. Donc, je trouve ça mignon et ça me va. Et donc, et puis Maud, ça a toujours été maman, de toute manière. Donc, il n'y a pas eu à changer.
Ça, c'est pour l'instant, naturellement et petit à petit. Mais on n'a pas, voilà, on n'a rien imposé et.
Non.
Et c'est lui qui verra comment il a envie de t'appeler.
Bah pour essayer, je crois que c'est acté.
Oui, c'est acté. Ça a l'air d'être plutôt pas mal acté. Est-ce que Clément, quand tu as parlé à Maud, parce que finalement, mai 2021, c'était hier.
Totalement. Enfin,
c'était il n'y a pas longtemps. Et tu as été relativement rapidement dans ta transition. Oui. Est-ce que pour toi, c'était acté que si tu en parlais, tu agissais tout de suite?
Ouais. Et oui, moi pour moi une fois que ça, pour moi ça marquait le top départ de ma transition en fait. Et à partir du moment où j'en ai parlé à Maud, je crois que la semaine d'après je prenais tous mes rendez-vous nécessaires pour les hormones et même mes rendez-vous chirurgiens, je crois que je les ai pris une semaine ou deux après l'annonce, hein, je crois.
Ouais,
ça a été rapide. Enfin, ça a été rapide et en même temps, je me rendais compte que tout prenait du temps, donc je savais qu'il fallait quand même que je boucle les choses et j'avais envie que ça avance et j'avais envie d'arriver là où j'avais envie d'arriver en tout cas. Donc oui, bah c'est clair que j'ai pas tergiversé une fois que ça a été annoncé parce que bah, ça me libérait et donc c'était le moment où je me suis dit ok, je peux être moi-même et on y va quoi.
Oui, parce que ça a été vite de l'extérieur, mais toi en fait ça a pris 34 ans pour que tu en arrives en fait ça a été vite pour
non, ça a été
pour
oui
toi,
voilà.
ça a pris du temps au final.
Ouais, totalement, ouais, c'est vrai.
Une fois que la prise de décision a été faite, c'est là où ça d'accord. Est-ce que pour toi il était clair que si tu changeais d'identité, tu devais passer par la transition? Parce que je crois que tu peux ne pas le faire.
Ah bah, en fait. Après, chacun, chaque personne voit les choses comme elle le sentent, que ce soit pour les hormones, que ce soit pour les différentes chirurgies possibles. Chacun voit sa transition comme il ou elle le ressent. Moi, j'avais trois choses qui étaient importantes pour moi. Pour me sentir complet dans ma transition, c'était d'abord de prendre des hormones parce que ça c'est on va dire que c'est le plus rapide à pouvoir accéder, faire la mammectomie et ensuite faire mon changement d'état civil. Et il y en a qui vont ajouter d'autres opérations ou qui vont pas faire de mammectomie. Ça c'est vraiment propre à chacun. Et ben on en parlait en off tout à l'heure, Constance, mais ce qu'il y a un truc qui est vachement important à dire quand même, c'est que dans les transitions, enfin il y a autant de transitions que de personnes trans, et chacun voit sa masculinité ou sa féminité comme il l'entend, ou son genre en tout cas comme il l'entend. Et on n'est pas plus ou moins trans si on fait ou on ne fait pas des opérations, quoi. Donc moi je la voyais comme ça, ma transition, et effectivement j'ai bien avancé dessus. Je suis assez content là d'où j'en suis aujourd'hui, mais c'est pas fini.
Mais non, parce que prochaine étape, changement d'identité.
Exactement.
Du coup. Et ça, je suppose que c'est la partie la plus longue presque.
Ça va mettre du temps. Je sais que dans ton auditoire, tu as de nombreuses personnes qui ont dû adopter leur enfant. On en fait partie. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il faut monter un dossier prouvant qu'effectivement, je suis dans la société considéré comme un homme. Donc, auprès de ma famille, de mes collègues, de mes proches. Enfin, il faut même parfois fournir des factures de club de sport avec une identité, etc. Tout autre justificatif. On fait un joli dossier bien monté et ça passe au tribunal judiciaire.
D'accord, tribunal judiciaire.
Voilà. Et donc le juge statuera si j'ai le droit d'avoir le petit M, d'être qui je suis et de pouvoir changer toutes mes identités sur tous mes papiers.
D'accord. Et est-ce que je peux te poser la question de... Tu as changé de prénom ?
J'ai fait un changement de prénom, ouais. Avant de faire justement le changement d'état civil, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite.
D'accord.
Donc ça me permettait d'avoir partout mon nouveau prénom. À savoir que le changement de prénom, ça se fait en mairie et moi ma mairie a dû mettre une semaine et demie à le faire.
Oui,
donc,
c'est rapide.
Donc c'est rapide, c'est quelque chose qui est...
Ça dépend des mairies.
Oui, ça dépend des mairies.
Il
y a des mairies qui bloquent. Nous, on a une mairie où ça se passe bien, donc j'ai eu de la chance. Effectivement, c'est bien de le rappeler que c'est pas pareil. On n'est pas tous logés à la même enseigne selon nos régions d'habitation. Et donc oui, ça, c'est une des premières choses que j'ai fait, ouais. C'est de faire le changement de prénom.
D'accord. Et ça a été acté... Tu te souviens de quand est-ce que ça a été fait ?
Ça a été... j'ai eu le papier mi-septembre.
Ah oui, donc très, très rapidement après ta décision.
Rapidement, voilà, c'est pareil, c'est un tout petit dossier, c'est un dossier un peu plus facile à faire avec quelques attestations de proches et j'avais dû mettre une facture ou deux avec mon nouveau prénom et puis un petit CERFA expliquant pourquoi je voulais changer de prénom. Et ça a été fait, je te dis, en une bonne semaine, c'était fait.
Est-ce que ce changement d'identité, il engage aujourd'hui ta parentalité ou ta parentalité future, et d'ailleurs votre parentalité?
Non, pour moi c'est une continuité, donc ça n'engage en rien ni ma vie de tous les jours ni la parentalité. La parentalité future, là, elle est pour l'instant.
Oui, nous on n'avait pas prévu d'avoir d'autres enfants parce que on a déjà mis plusieurs années parce que Solal arrive, donc voilà. Après, ça te freine quand même, toi. Enfin, on s'était pas fermer complètement de porte au cas où il y ait un deuxième enfant.
Ouais.
Même si bon, c'était pas, voilà.
C'était pas trop un projet. Après, c'est vrai que là, moi, ayant avancé sur ce sujet, je voudrais plus porter d'enfant.
Bon, ça aussi, c'est propre à chacun. C'est
tout à fait propre à moi, effectivement, parce que un homme, rappelons tout de même qu'un homme trans peut porter son enfant.
Exactement.
Donc oui, ça, dans ce sens, ça peut effectivement questionner une parentalité future.
Mais sinon...
Mais en soi, non, ça n'a rien changé.
Et est-ce que Solal, lui, il a vu le changement ?
Ah bah oui, tu piques. Il le dit.
Oui, avec ses enfants, il y a plein de choses assez marrantes qui ressortent. Oui, je pique. on a beaucoup parlé aussi. Là, je me suis fait opérer. J'ai fait ma mammectomie. À l'heure où on se parle, c'était il y a deux semaines. Donc ça, je lui en ai beaucoup parlé. Il avait vu ma poitrine et je lui avais expliqué ce qui allait se passer, que j'allais voir le docteur pour qu'il l'enlève. Effectivement, il est aussi dans cette histoire-là et puis il est au courant de ce qui se passe à chaque étape.
Et il te genre au masculin parce que quand on lui a annoncé à Solal, qu'on lui a expliqué à cette époque, il genrait pas encore, il faisait pas des phrases, toute construite, exactement. Et là, maintenant, ça fait peu de temps que, quand il genre, il genre les gens, en fonction de qui ils sont. Et c'est son mimou, c'est il. En fait, aussi parce qu'il nous entend parler. Mais voilà, ça, il a assimilé. Donc, il y a ça aussi qui a...
Oui, qu'il a intégré.
Qu'il a intégré.
Oui, et puis pour lui, c'est naturel. Enfin, ça semble en tout cas naturel.
C'est sa normalité, on va dire. C'est son histoire. Donc, il grandit là-dedans. Nous, on a toujours mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de secret. Donc, il n'y avait pas de secret sur sa conception. Et là, il n'y a pas de secret sur qui je suis et qui je suis par rapport à lui. Il y a un truc marrant, c'est hier, Maud, je ne sais plus pourquoi tu lui as posé cette question.
Ah, non, parce que quand on lisait l'histoire.
Il a demandé, ah oui, tu lisais une histoire, il y avait une femme enceinte, et Maud lui dit, mais du coup, tu étais dans le ventre de qui? Et il dit, j'étais dans le ventre de Mimou. Et en fait, c'est vrai que comme ça faisait un moment qu'on n'avait pas abordé le sujet de la grossesse ou quoi, ça nous a fait rire parce que, en fait, c'est naturel pour lui, il le sait, en plus, c'est ce que ça a démontré. Et puis voilà, c'est naturel, oui, ok, j'étais dans le ventre de mon Mimou. C'est okay. Comme ça.
C'est normal. Mais oui, enfin, tu vois, je trouve que nos enfants, ils se posent beaucoup moins de questions que nous, en fait. C'est ça qui est fabuleux.
Bah, à partir du moment où c'est expliqué, les choses, ok, elles sont intégrées, elles se vivent naturellement, quelque part. Mm-hmm.
Après, le problème, c'est les autres. C'est toujours comme ça.
C'est ça. Justement, parlons-en des autres. Comment ça a été accueilli pour toi dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu as changé de boulot depuis, d'ailleurs? Peut-être que ça a été concomitant à quelque chose, je ne sais pas.
Bah non, j'ai dû faire un... Ça a été difficile pour moi de le dire, parce que ça a été difficile de le dire avec tout le monde, en fait, de mettre des mots sur qui je suis. Ça a été difficile avec tout le monde. Bah, ça faisait moins d'un an, je crois, que j'étais dans ce boulot-là quand je leur ai dit. Je suis d'abord allé voir ma hiérarchie pour leur expliquer, voilà, machin. Voilà. Les gens ont, en fait, accueilli naturellement la nouvelle au travail. Ouais. J'ai dû le dire, ça s'est bien passé. Très franchement, c'était pas gagné. J'avais un peu des a priori sur les personnes à qui je l'ai dit.
Parce que tu travailles dans un milieu très masculin, assez fermé. Voilà. Il y a beaucoup BFM télé en boucle.
On n'est pas sur du LGBT QIA+, très friendly, de visu, en tout cas, comme ça, on peut avoir un a priori. Et en fait, mes collègues, mes deux collègues les plus proches sont des hommes qui ont plus de 50 ans, qui ont 50 et 60 ans, donc plus proches de la soixantaine. Et pas forcément des intellectuels, quoi, si tu veux. Et donc, j'avais un a priori en me disant, ils vont pas comprendre, ouais, c'est plutôt ça, ils vont pas comprendre et peut-être que ça va faire des blagues derrière mon dos, et voilà, j'avais un petit peu peur de ça. Mmh. Et en fait, ils m'ont dit, écoute, c'est ta vie. Mais ils m'ont posé des questions, mais comme n'importe qui a pu me poser des questions, mais avec du respect, et donc ça s'est très bien passé. Il y a eu des petites gaffes pour me genrer, mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque... Voilà,
c'est le temps que les gens se fassent...
Exactement.
Après, ils ont tout changé, avant même que t'aies changé de prénom à la mairie, ils avaient changé ton prénom sur ton adresse mail, sur la petite pancarte d'accès à l'atelier.
Ils ont vraiment pris en considération.
Je crois qu'ils en ont parlé il y a eu une réunion avec plusieurs chefs, et là, toi, ton chef ou ta chef a expliqué aussi,
parce que moi, je suis dans une grande administration, on est beaucoup, ça faisait pas très longtemps que j'étais là, donc je connaissais pas tout le monde avec le problème Covid, j'avais pas rencontré tout le monde, et bon, je voulais que les gens sachent et qu'il y ait pas de quiproquo, donc j'ai demandé à ma chef comment est-ce qu'on pouvait mettre les choses en place, et elle m'a dit, écoute, je vais en parler en réunion plénière, comme ça les chefs de service pourront l'annoncer à tout le monde.
Ça,
c'est acté. Et franchement, aucun mauvais retour au travail, quoi.
Ouais, ça, c'est super.
Y a forcément des gens qui en pensent pas moins, mais moi, j'ai pas été impacté. J'ai eu cette chance-là, c'est que pas de mauvaise surprise, pas de mauvais ressenti. Ça a été
un soulagement.
Un vrai soulagement.
Tu m'étonnes. Et ta famille, ça a été comment? Attention, tu peux ne pas répondre à la question.
Ma famille, globalement, ça s'est bien passé. De mon côté, la famille de Maud, ça s'est très bien passé. Ça a été très compliqué avec mes parents.
Ouais. Je me souviens que vous en avez parlé, je crois, sur le compte Instagram.
Ouais, on en avait
parlé. Parce qu'on ne s'y attendait pas.
Non, j'étais en fait
justement, des fois il y a des personnes où on se dit ça va pas passer et alors là ça passe nickel, et il y a des personnes où on se dit ça va être, voilà, il va falloir un petit temps de pour accueillir la nouvelle, etc., comme ça a été mon cas. Et en fait
ouais, je me suis pris voilà, ça a été très compliqué. Voilà, on va essayer de voir comment évoluent les choses maintenant, mais ouais, ça a été six mois compliqués, quoi.
D'accord. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux?
Oui. Ouais. Je suis passé par plein d'étapes là depuis ce début. Bon, il y a plein de choses qui se sont passées et plein d'événements heureux que je pourrais raconter, mais il y a un sentiment que je connaissais pas, c'est de se sentir soi-même et de se sentir libre de ses choix. Mmh. Et pour moi, en fait, c'est ce sentiment-là, il a juste été incroyable.
Ouais. Et, c'est nouveau pour toi.
Ouais, c'est nouveau. Enfin, c'est, ouais, je saurais même pas vraiment le décrire finalement, mais ça a été ouais un vrai souffle.
Ouais, mais je me doute. Tu te sens à ta place.
C'est ça, exactement. Aligné, comme on dit.
Exactement, exactement.
Moi, j'ai des craintes pour l'école et compagnie. Ça.
Oui, ça, oui, il y a un truc qui est sûr, c'est que.
Que là, tout est merveilleux, tu vois. Il est chez son assistante maternelle. Il est dans un micro monde. Hein, c'est après quand il va entrer à l'école, cela, ça va être autre chose parce que justement, c'est son papa Mimon qui l'a porté. Et je pense qu'il y a des moments où à l'école, il parle un petit peu de, je sais pas, la généalogie, etc. Donc il a son donneur. Son papa l'a porté. Enfin, il y a un moment où quand il va l'intégrer que par rapport aux autres. Pas la même chose, même si lui il est bien dans ses baskets par rapport à ça, voilà, il va vraiment sentir cette différence, quoi. Et les autres, s'ils le verbalisent, pourront lui faire encore plus ressentir que bah oui, c'est pareil, quoi. Donc ça sera à voir, effectivement. De toute façon, on va faire de toute façon, ces parcours là c'est étape par étape, donc
Et puis encore une fois, enfin, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas un parcours qui soit identique, donc il n'y a pas une, enfin, je pense que
il n'y a pas de manuel, hein.
Donc... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il va falloir attendre de voir ce qui se passe. Et puis, bah, pareil à ça, en fonction de ce que vous avez comme retour de sa part à lui. Ça se trouve, ça va passer crème. Et voilà.
Ouais. J'espère qu'on aura de bonnes surprises. Après, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours les autres qui nous font peur, finalement, dans leur réaction et dans leur. Après, voilà, est-ce qu'on établira une. Comment on lui expliquera les choses ou comment lui devra raconter sa famille à l'école.
Ouais, c'est sûr que ça, c'est...
Jusqu'où il pourra aller pour être tranquille ou je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais bon, il a encore que 2 ans et demi. On va, comme tu dis, on va faire les choses étape par étape.
Oui, et puis bon, il y a d'autres projets qui font que si ça se trouve, vous serez peut-être plus là pour l'entrée à l'école. Là où vous êtes, et que bah on sait pas, enfin voilà, il y a aussi ça qui va jouer, donc
oui, l'avenir
nous dira.
Oui. Après c'est sûr que les gens sont pas obligés de savoir non plus toute notre vie, et
non, clairement pas, mais c'est vrai qu'à l'école les enfants, alors c'est pas tant les enfants qui creusent, c'est les parents derrière qui les enfants qui creusent.
Oui, ils vont rentrer à la maison, ils vont parler de ce que le copain a dit à l'école, et là, quoi ? Bon, mais qu'est-ce que c'est possible ? Ouais.
Ouais.
Ouais, bah oui.
Écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les deux, parce que se livrer sur ce parcours-là, surtout qu'il est quand même assez frais et récent, c'est pas rien. Et c'est hyper important de le visibiliser, parce que je pense bien, et je peux affirmer que tu n'es pas seule à avoir des envies de transition, on le sait tous, hein, mais de transition et de grossesse, j'ai encore eu un message ce matin et je te l'ai dit, et ça va aider, clairement ça va aider, ça va rassurer, ça va normaliser, ça va visibiliser, ça va, enfin voilà, c'est un acte militant, soyons clairs.
Oui, je sais pas si on est, oui, c'est militant, parce qu'il faut parler de nous, parce qu'on existe, parce qu'on est... Parce qu'on est là et que, en fait, on vit notre petite vie tranquille. Et je pense forcément aux jeunes. Tu nous as parlé de certains témoignages et je pense forcément à ces jeunes-là qui se construisent et qui ont peut-être des craintes, qui ont peut-être des peurs. Et nous, ce qu'on montre, en tout cas, sur nos comptes Instagram, c'est qu'on est une petite famille tranquille et on vit notre petite vie et ça peut bien se passer.
Ouais, et tout va bien. Et c'est ça qui est important.
Et nos enfants vont bien.
Et les enfants vont bien. Merci beaucoup, Maud et Clément.
Merci à toi.
À très bientôt.
À bientôt.
Je vous reprends pour ajouter quelques informations. Jusqu'en 2016, la transparentalité était limitée par la loi française qui exigeait la stérilisation des personnes trans pour accéder à une transition administrative. Dénoncée par le Défenseur des droits européens, depuis 2009, cette condition a été supprimée le 18 novembre 2016. La source de cette information est l'association Chrysalide. Depuis le vote de la nouvelle loi bioéthique, les accès à l'adoption et à la PMA ont été ouverts, mais pas encore l'accès à la GPA, ce qui ne veut pas dire que des discriminations ne sont toutefois pas appliquées dans le choix des dossiers. Évidemment, devant la récence de ces mesures, aucune statistique n'est disponible sur le nombre d'enfants grandissant dans des familles transparentales. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un ou même à plusieurs personnes, vous pouvez le partager. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, le noter sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Vous abonner aussi au podcast, c'est ce qui a priori donne le plus de visibilité. Et enfin, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, afin de continuer la discussion ou d'en commencer de nouvelles. Je vous souhaite un très bon début de semaine et vous retrouve jeudi pour un nouvel épisode du Fil Rouge du podcast Les Enfants Vont Bien. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my heart.